Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un patineur qui tutoie les hauteurs. Il détient d'ailleurs à ce jour le record du monde de hauteur pure, ou fringe up, avec un saut à 1m72. Il nous vient du Sénégal mais réside désormais à Brest. Nous souhaitons la bienvenue au champion du monde et recordman du monde, Dame Fall. Bonjour Dame Fall.
Bonjour Alex, et bonjour également à toutes les personnes qui nous écoutent.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
D'accord. Moi, je m'appelle Dame Fall, j'ai 26 ans, je suis trois fois champion du monde de saut en hauteur, et je suis également éducateur sportif dans le domaine du roller. J'encadre des jeunes en partant du loisir et jusqu'au haut niveau.
D'accord, on va revenir sur ton parcours au fil du temps. On va commencer par le commencement. Tout d'abord, comment t'es arrivé au roller? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le roller ou le patinage à roulettes?
Alors, avant, moi, je faisais du foot et du handball. Le roller, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Mais au collège, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du roller, qui arrivaient en roller pour faire leurs études et tout ça. Et à chaque fois, ils arrivaient en groupe. Du coup, il y a l'effet wow, c'était vraiment spectaculaire quand on les voit arriver à vive allure et freiner d'un coup. Du coup, c'est ça qui m'a attiré un tout petit peu dans la discipline. Mais à l'époque, comme je faisais d'autres sports, c'était un peu compliqué. Mais il m'est arrivé un jour, j'ai essayé une seule paire de rollers. J'ai pas mis les deux, j'ai mis seulement le pied droit parce que j'étais pas à l'aise. Je me dis, je mets seulement le pied droit et je jouais comme ça. Et le jour d'après, j'avais mon oncle. Je savais pas qu'il avait des rollers, en fait. Du coup, il m'a prêté ses rollers. Je suis allé sur la terrasse. Et c'est là que je commençais à faire un tout petit peu, quelques petits pas avec les deux rollers cette fois-ci. Et le lendemain, je suis sorti faire du roller d'or. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté.
C'était en quelle année? T'avais quel âge?
C'était en 2013. Et en 2013, j'avais 16 ans. J'ai commencé le roller très tard.
Oui, c'est vrai, finalement, que tu as commencé relativement tard pour un champion. Donc là, tu commences à patiner. Tu es à quel endroit à ce moment-là?
Alors, quand j'ai commencé à patiner, de toute façon, moi, je suis né à Dakar. J'ai grandi là-bas. J'ai pas beaucoup bougé de Dakar pour aller dans les régions et tout ça. Donc, j'ai commencé le roller à Dakar. Au début, je me baladais comme ça. Je n'étais pas vraiment attiré dans tout ce qui est club et tout ça parce que j'étais juste attiré par les rollers. C'est après, par la suite, que j'ai vu qu'il y avait un club quelque part, pas loin de chez moi, à peine 1 km de chez moi. Et je suis allé là-bas pour tester le roller. Et il y avait du slalom, il y avait du saut. Et voilà, c'était un club qui s'appelait Dakar Roller. Dakar Roller, ça fait partie des plus anciens clubs de roller au Sénégal. Et arrivé dans ce club, il faisait du slalom, il faisait du saut, il faisait du tremplin aussi, le high jump. Et moi, au début, par contre, j'étais attiré par le slalom. Je faisais pas du tout de saut. C'était le slalom qui m'attirait. Du coup, j'ai commencé à faire du slalom, à faire des croisés, croisés avant, croisés arrière, des figures basiques, Nelson et tout ça. Et j'ai fait du slalom pendant presque 6 à 8 mois. Que slalom, le saut ne m'attirait pas trop. Et un jour, le sauteur du club, le mec qui a le record, quoi, il sautait à peu près 1m35, un truc du genre. Et un jour, je l'ai vu sauter. À chaque fois que je le vois sauter, je le regarde parce que c'est spectaculaire. Il sautait en déhanché. Et j'arrive un jour, je teste, je commence à sauter avec lui. On commence 1 mètre, 1 mètre 5, 1 mètre 10. Et je monte jusqu'à ce que j'égale son record. Le premier jour où j'essayais de faire du saut. Par exemple, j'ai égalé son record. Le premier jour où j'essayais de faire du saut. Et depuis ce jour-là, le moniteur, il arrive, il me dit: mais finalement, t'es beaucoup plus fort en hauteur. Je pense que tu vas rester et faire de la hauteur pure. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté le slalom et je faisais que de la hauteur. Et ça s'est enchaîné après. Il y a eu des compétitions, championnat du Sénégal. Et je suis allé, j'étais junior à l'époque et j'ai fait deuxième place. Et par contre, l'année d'après, c'était première place jusqu'à maintenant, quoi.
Et t'avais quoi comme patin? Avec quel matériel tu roulais?
Alors avant, j'avais des rollers Blade. C'était des rollers Blade avec une platine alu. C'est vraiment des très anciens rollers Blade. Si j'avais l'image, j'aurais pu te le montrer. Mais vraiment, c'est pas les rollers Blade Twister, mais vraiment les anciens rollers Blade avec les trois crochets. le crochet en haut, le crochet du milieu et le crochet du bas. Et c'était vraiment des rollers éclatés, éclatés. Mais à l'époque, en fait, on s'en foutait vraiment des rollers. On voulait juste kiffer, sauter. Et ce qui est bien, c'est au Sénégal, en fait, par rapport ici en France, en fait, les entraînements, c'est des sessions. C'est vraiment, c'est pas un entraînement encadré avec un prof et tout ça, mais c'est un groupe de copains qui vont venir faire du saut ensemble. Et à chaque entraînement, c'est une compétition en fait, parce que on saute presque tous à peu près au même niveau. Donc c'est une compétition et c'est comme ça qu'on se tire vers le haut les uns les autres. Et c'est ça qui fait que le Sénégal aujourd'hui détient le record du monde et détient aussi un peu le monopole de la discipline.
Oui, vous êtes nombreux, alors, sur le club, notamment à Dakar Roller, à faire du saut.
Ah, beaucoup. Déjà au Sénégal, je disais à mes élèves, je dis au Sénégal, vous arrivez, vous allez avoir facilement quatre personnes qui passent au-dessus de 1,60 m. Donc 1,50 m, vous allez avoir, je sais pas combien de personnes qui vont passer facilement au-dessus de 1,50 m, parce que le saut, c'est vraiment une discipline phare au Sénégal. Nous, on aime beaucoup sauter, on fait du saut en hauteur et on fait du high jump, parce que c'est ce qu'on fait sur les démonstrations, en fait.
Alors, tu parles du high jump. C'est intéressant parce que finalement, c'est une pratique qui avait un petit peu disparu, on va dire, à la fin des années 90, à peu près. Il y a eu beaucoup de quaders qui en faisaient, notamment, je te parlais en off de Hakim Naïchalal, qui a fait partie des meilleurs dans cette discipline. Tu crois un retour du high jump, toi, ou c'est vraiment une spécificité du Sénégal?
Alors, le high jump, un retour du high jump, j'en doute vraiment. J'en doute pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, en fait, parce que nous, au Sénégal, on fait encore du high jump. En Italie, ils en font encore. Même, ils organisent même des compétitions de high jump. Moi, le seul retour que j'ai eu sur l'arrêt du high jump au niveau international sur des compétitions officielles, c'est qu'ils disent que c'est dangereux, que c'est pas bon pour le dos, l'atterrissage sur le plat et tout ça. Voilà, bah, c'est le seul argument que j'ai eu comme retour pour l'arrêt du high jump. Mais nous, au Sénégal, on adore, on le fait encore, le high jump. Et moi, actuellement, sur des démonstrations ici en France, je fais de la hauteur pure et je fais également du high jump. Parce qu'en fait, les gens, c'est impressionnant à voir une personne qui passe au-dessus de 2,50 m, 2,70 m avec un tremplin de 60 cm. Et vraiment, c'est une très belle discipline.
Ouais, et en plus, vous le pratiquez en ligne, vous le pratiquez pas en quad. C'est vrai que l'exception.
Au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de quaddeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de Baba. Baba, lui, c'est le précurseur du roller sénégalais. C'est la première personne qui faisait du roller au Sénégal. Et Baba, lui, en fait, il a commencé avec les quads. Au début, il avait commencé avec les quads. Je pense qu'il avait 4 ans quand il a commencé à faire du roller. Et depuis lors, il n'a pas déchaussé. Maintenant, je ne sais pas, il doit être vers les 45, je sais pas combien, et voilà quoi. Et c'est à lui aussi qu'on doit un peu tout ça, parce que si lui, il n'avait pas commencé le roller, s'il n'avait pas essayé de le développer, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui.
Là, le Sénégal, on sent que c'est une valeur montante, que ce soit au niveau de la hauteur pure, mais aussi dans d'autres disciplines. Alors, on élargira un petit peu après sur cette thématique-là. On va continuer sur ton parcours. Est-ce que, donc, tu disais, tu as fait d'autres pratiques, tu as fait du slalom freestyle. Aujourd'hui, tu fais un peu de skate cross également.
Oui, je suis tombé amoureux du skatecross quand je suis arrivé en France en 2020. Et j'ai essayé, c'était dur les débuts parce que nous, au Sénégal, on n'a pas de skatepark. On a un seul skatepark et c'est récent. Et on n'a que des tremplins, on n'a pas de courbe de funbox. Donc j'arrive en France, une compétition. En plus, c'est la plus grosse compétition, c'était quand j'arrive. C'était ma première compétition de skatecross. Il y avait une Beerzybox, voilà. Et moi, j'ai jamais monté de funbox dans la vie, quoi. Mais par contre, je me suis débrouillé et je suis tombé amoureux de la discipline. Je suis resté sur ma faim et je me dis, bah, faut que je revienne, faut que j'aille bosser le skatecross et faut que je revienne. Et là, j'ai commencé à travailler le skatecross, que ce soit en club, et j'ai beaucoup évolué dans la discipline. Et maintenant, je suis prof de roller. J'encadre pas seulement le saut, mais je fais le skatecross. Et également, je coachais aussi en speed slalom, mais après, j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup de choses à gérer entre la hauteur pure et le ski de cross. Mais le ski de cross, c'est vraiment une discipline qui me passionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je peux être fier de ce que j'ai accompli parce que je l'ai commencé en 2020. Après, il y a eu le Covid. J'ai eu à peu près 2 ans de vraie pratique de ski cross. Et à Shanghai, j'ai fait 3e place sur les championnats du monde de ski cross. Donc, je suis très fier de mon parcours.
Ouais, c'est vrai que pour le coup, tu es vachement polyvalent. Est-ce que maintenant que Florian est parti à la retraite, est-ce que tu as des concurrents vraiment sérieux qui se rapprochent derrière toi?
Alors actuellement, j'ai un seul concurrent sérieux, c'est l'Italien Gianmarco. Je pense que tu l'as vu à Lyon, mais il
Oui,
était
il
pas
a
à sa
frappé les
meilleure
mecs.
forme. Voilà, il n'était pas à sa meilleure forme, mais quand il est à sa meilleure forme, il est vraiment un concurrent redoutable. À Shanghai, on s'est tiraillé un peu sur la barre à 1,65 m, il l'a franchi d'ailleurs. On est allé à 1,67 m et du coup, il n'a pas réussi à passer à 1,67 m. Et moi j'ai réussi, mais c'est quand même l'adversaire redoutable aujourd'hui pour moi, l'adversaire où j'arrive sur des compètes et je fais attention, je me dis, je suis pas seul, il y a Gianmarco, donc il va falloir faire attention, être propre sur les barres et ne pas faire de pénalité.
Comment t'es arrivé à ce niveau-là? Tu nous disais tout à l'heure, effectivement, que de base, tu sautais à 1,35 m. Qu'il y a eu un peu de compétition dans ton club parce que vous aviez le système des sessions. Mais est-ce que toi, à côté de ça, tu as mis en place une démarche d'entraînement ou est-ce que tu as toujours fait ça sous forme de jeu?
Alors moi, je l'ai toujours fait sous forme de jeu. Même quand je suis arrivé à Chine pour les à Nanjing pour les championnats du monde, en remportant ma première médaille d'or sur les championnats du monde, c'était vraiment des jeux. C'était pas un truc sérieux. Je m'entraînais pas, j'allais pas à la salle pour m'entraîner à pied ou je faisais pas attention à ce que je mange pour pas prendre de poids. Mais c'était vraiment une partie de plaisir pour moi. Et ce qui a fait que, par contre, j'avais déjà un physique d'athlète, parce que je faisais du foot et je faisais du hand. Et le hand, j'en faisais beaucoup. Je jouais un fois en pro j'ai joué presque 2 ans et demi. Et j'avais déjà la détente, en fait, parce qu'entre le foot et le hand, on saute tout le temps. Et moi, je jouais en pivot, donc je sautais presque tout le temps. Donc j'avais déjà cette détente-là. Après, pour le faire sur les rollers, il me manquait la technique parce que je commençais à peine le roller. Donc, je sautais en déhanché, il m'a fallu un peu de temps pour commencer à sauter en zoulou. Mais quand j'ai commencé à sauter en zoulou, j'ai franchi 1,45 m sur ma première compète où je sautais en zoulou. Et là-bas, j'avais fait 2e place devant, j'ai oublié son nom, c'est un junior, aidant junior sénégalais. Mais par contre, après, c'était vraiment une ascension. Je montais, c'était 1,50 m, 55, 60, ça s'arrêtait pas.
Tu nous parlais justement du hand et du foot. Donc, tu as fait le choix d'aller vers le roller. Qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix-là plutôt qu'un autre? Parce que, par exemple, si tu avais voulu devenir professionnel en sport, c'est sans doute beaucoup plus rémunérateur dans le hand ou le foot que dans le roller.
Ah oui, ça c'est vrai. J'avais surtout dans le hand parce que. En foot, autant j'étais en école de foot, mais je jouais pas en pro, je jouais pas des matchs officiels et tout ça. Mais par contre, au hand, j'avais un bon niveau, j'étais sollicité, j'étais tout le temps titulaire et j'avais un avenir dedans. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'a fait basculer du jour au lendemain. J'ai commencé le roller et moi, je me suis retrouvé à faire les compétitions de gauche à droite et je faisais plus du tout de hand. Et c'est vrai que quand on est jeune, en fait, on essaie tout de tout et n'importe quoi, on essaie toutes les choses et on se rend pas compte de ce qui est bon ou pas pour nous. On suit vraiment nos pensées, on se fait plaisir. Plus tard, quand je suis plus tard, des années plus tard après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté le hand? Et du coup, c'est vrai que des fois, j'ai un petit regret, mais après, quand je vois tout ce que j'ai accompli dans le roller et l'héritage que je laisse aux jeunes, parce que j'ai des jeunes aujourd'hui qui font des résultats, et mine de rien, quand je les vois faire des résultats où j'ai contribué à ces résultats-là, en fait, ça me dit que, bah oui, maintenant, j'ai pas de regrets, quoi. Je peux être fier de ce que j'ai accompli, en fait.
Quelle est ta relation du coup toi avec Florian Piquelin, parce que ça a été un petit peu le duel pendant quelques années entre vous deux, mais on sent que c'est quand même une figure hyper amicale et une compétition amicale entre vous.
Oui, alors Florian, déjà, moi je l'apprécie beaucoup parce que c'est un modèle, c'est une personne exemplaire, c'est un modèle de performance. Parce que lui, en fait, c'est lui qui a réformé la discipline. Il faut appeler un chat un chat. Il a réformé la discipline. Avant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la hauteur que moi je faisais vraiment pour le plaisir. Je faisais pas d'entraînement à pied. Je me rendais pas compte qu'il fallait faire un entraînement à pied pour travailler la détente verticale, pour travailler des trucs à pied. Il faut faire attention à ce qu'on mange pour pas prendre de poids, pour être affûté sur les grosses compètes. Et tout ça, moi, je l'avais pas. Et tout ça, c'est lui qui l'a amené dans la discipline. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je fais aujourd'hui 5 séances de préparation physique par semaine, 3 séances de saut, des séances de mobilité et tout ça. Parce que c'est lui qui a amené tout ça dans la discipline. C'est un modèle de performance, de professionnalisme. Donc, moi, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour lui. En plus, c'est une bonne personne qui dégage vraiment de l'allure, de la rassurance, parce que quand on le voit, on voit que le mec, il est sérieux, il n'est pas là pour... Voilà quoi. Donc, je suis vraiment satisfait de pouvoir partager toutes ces années avec lui. Et j'avais un pincement de cœur aussi quand il a arrêté, parce que il était un peu l'essence, le moteur qui me poussait à travailler plus, parce qu'il était au-dessus. On était à peu près, on se tiraillait, des fois je gagnais, des fois il gagnait, mais pour la plupart des temps il me gagnait. Et donc il me boostait en fait, parce que moi je suis pas un mauvais perdant. Quand je perds, je vais rentrer chez moi, je vais travailler plus pour ne pas perdre la prochaine fois. Donc voilà quoi. Et c'est grâce à lui aujourd'hui, si je suis arrivé à ce niveau, c'est un peu grâce à lui, parce que notre duel nous attirait tous les deux vers le haut. Donc, j'ai une personne et beaucoup de respect pour lui, et on s'entend très très bien.
C'est vrai que ça a été quand même une sacrée compétition sur les championnats du monde entre vous.
Ah oui, il me manque déjà. Hein.
Bon, on va parler un petit peu plus tard de ton passage par l'Italie, mais toi, tu parles italien.
Oui, je parle italien couramment, parce que j'ai fait 2 ans en Italie. J'ai de la famille là-bas. Parce qu'on n'a pas parlé encore sur ma venue en France.
Oui, voilà, ouais. On va
Ça,
là-bas. Si tu veux me collaborer maintenant, comment t'es passé du Sénégal à la France? Raconte-nous ton parcours.
alors, en fait, tout à l'heure, je parlais de 2014-2015. C'est là que j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai basculé très vite dans les compétitions. 2015, il y avait les championnats de Sénégal. Et j'ai fait deuxième place chez les juniors. 2016, encore, je monte chez les seniors, je fais première place. Et 2016, je suis parti. C'était mon premier voyage à l'international. C'était les championnats d'Afrique. Et j'ai fait première place, que ce soit en saut en hauteur et en high jump, parce que high jump existait encore en Afrique. Et 2017, c'était les championnats du monde en Chine. Donc, en fait, moi, j'ai eu un tremplin. Je fais 2015, championnat du Sénégal. 2016, championnat d'Afrique. 2017, championnat du monde. Et c'est là que j'étais mise en lumière quand je suis arrivé à Nanjing. J'ai gagné la médaille d'or. Moi, arrivé tranquille, je me dis, oh, si moi j'aime bien sauter, je saute pour le plaisir. Je savais pas en fait l'ampleur que ça avait, qu'il y avait de gagner une médaille d'or sur les championnats du monde. C'est après que je l'ai su. Après, je recevais des invitations de partout, des demandes d'amis. Et c'est là que je commençais à me faire connaître. Et en France aussi. Donc, je voulais venir en France pour faire des compètes, parce que je me dis, en fait, les Français, ils sont les meilleurs. Donc, si moi, je veux aller vers le haut, faut que j'aille en France pour faire des compétitions de saut en hauteur. Et c'est là que je suis rentré en contact avec la présidente du Bresse-Roller Club, Fabienne Le Gac, qui m'a invité en France pour faire une compétition. Après, j'ai pris une licence au club, mais c'était pour faire une compétition vite fait et rentrer, quoi, en
Mais
2018.
pourquoi Brest en fait? Comment t'es arrivé à Brest? Comment tu l'as rencontré, Fabienne?
C'est la question à 1 000 000 000. C'est la question qu'on me pose toujours, la transition entre Brest et Sénégal. Sénégal et Brest, quoi. Donc, Brest, après les championnats du monde en 2017, j'étais beaucoup connu, voilà. Et j'avais envie de venir en France, ce que je disais tout à l'heure, pour faire des compétitions. Donc, c'est là que j'ai vu une compétition organisée à Brest. C'était au mois d'avril. Et j'ai envoyé un mail pour recevoir une invitation, en fait, pour juste venir faire la compétition et rentrer chez moi, quoi. Donc, je suis venu, on m'a envoyé une invitation, j'ai fait des procédures, j'ai eu mon visa, je suis venu faire la compétition. Évidemment, je n'étais pas déçu, parce que je voulais faire vraiment des compétitions en France. Et on m'a bien accueilli au Brest Roller Club. C'est grâce à Fabienne si je suis resté en France d'ailleurs, parce qu'elle m'avait bien accueilli et j'ai bien apprécié l'accueil que j'ai trouvé ici. Moi qui aimais pas trop voyager, et j'étais plutôt séduit. Et en fait, après, j'ai enchaîné 2000, c'était en 2018. Après, je suis revenu au mois de mai, parce qu'avril, il y avait la compétition de Brest, mais mois de mai, il y avait Rennes-sur-Roulette. Et Rennes-sur-Roulette, je le voyais avant, je voyais la compète quand j'étais au Sénégal. C'était une grosse compète, il y avait des Italiens et tout. Et du coup, je suis revenu pour faire la compète Rennes-sur-Roulette. Et Rennes-sur-Roulette, je suis arrivé contre Florian. Je le rencontre à nouveau parce qu'on s'est bien battu en Chine en 2017 et j'ai gagné. Et 2018, il y avait Rennes-sur-Roulette, je suis venu. Et là, on a fait une grosse bataille. Et là aussi, j'ai gagné. Voilà. En fait, entre 2017 et entre 2018, quand je suis venu en France, deux fois, je suis venu en avril et je suis venu au mois de mai pour faire Rennes-sur-Roulette. Après, vraiment, je commençais à tomber amoureux de la ville de Brest parce que j'ai découvert Brest, on m'a bien accueilli. Je suis parti au club, j'ai fait des séances en club avec les riders qui étaient dans le club. Et à l'époque, il y avait une coach aussi, Emily, m'avait bien accueilli. En fait, c'est ça qui m'a boosté un peu. Mais par contre, je suis pas resté de suite. Je suis parti en Italie. Je suis parti en Italie voir de la famille parce que je pouvais pas rester. Pour rester, il fallait trouver un travail, il fallait faire des procédures pour avoir un visa plus long. Donc, c'était un peu compliqué à faire sur place. Donc, je suis parti et il y avait une coach à l'époque, donc je pouvais pas prendre sa place. Donc, je suis parti en Italie en 2018 et j'ai vécu là-bas 2 ans. J'avais de la famille, mais par contre, là où j'habitais, il y avait pas de club. Donc, je suis resté presque un an et demi sans faire de roller, sans m'entraîner. Et
C'était à quel endroit?
j'ai failli même arrêter le roller un an et demi. Donc, j'ai failli même arrêter le roller. Et en 2019, il y avait les championnats du monde, Barcelona Games à Barcelone. Et du coup, vu que j'étais champion du monde en 2017, donc forcément, je devais remettre mon titre en jeu et j'avais pas le droit de ne pas venir, sinon il y avait quelques pénalités pour la fédération sénégalaise, parce que celui qui a gagné, il faut qu'il revienne pour mettre son titre en jeu et tout ça. Et puis c'est là qu'on m'a contacté pour me dire, bah t'as pas le choix, faut que tu participes au championnat du monde. Et moi, de base, je voulais pas y participer parce que je suis resté un peu longtemps sans faire de roller, j'ai perdu un peu l'envie. Et j'avais un mois et demi pour m'entraîner. Et c'était compliqué. Je suis allé chez Decathlon, je suis allé chercher des barres et j'ai commencé à m'entraîner un peu. Et en fait, c'est là que je suis arrivé à Barcelone. Florian, il était au top de sa forme. Mais moi aussi, je me suis surpassé parce qu'en fait, j'ai battu le record personnel que j'avais qui était de 1,58 m. Et tous les deux, on a sauté 1,62 m à Barcelone. Donc vraiment, et bah il y avait une grosse bataille aussi, comme à chaque fois, quoi. Et les spectateurs aussi n'étaient pas déçus. Voilà. En fait, après Barcelona Game, j'ai perdu. Et le fait de perdre, en fait, a fait que je me suis dit, ouais, j'ai perdu vos titres. Donc avant, je m'en foutais un peu parce que quand tu gagnes t'as le titre, tu connais pas la valeur de Sofia tant que tu perds pas. Donc j'ai perdu mon titre et ça a fait un petit pincement de cœur et je me suis dit bah merde, je vais retourner en France. Et là je suis revenu en France. Parce que si je restais en Italie, j'arrêtais le roller, je suis retourné en France et j'ai commencé à faire j'ai passé une formation de CQP pour être prof de roller. Et le club aussi voulait en même temps que je récupère le poste de coach parce que la coach était partie en 2003. Et c'est là que je suis resté en France depuis 2020. Je suis installé en France. Et là, j'ai passé le CQP. Après le CQP, j'ai passé un diplôme d'État pour encadrer le haut niveau. Et voilà quoi. Voilà l'histoire entre le Sénégal, Brest, Italie et Brest à nouveau.
Ouais, ça fait quand même un beau parcours. Comment tu vivais en Italie ou comment t'as vécu même au début en France? T'as été tout de suite du coup prof?
Alors non, en France, quand je suis arrivé en 2020, par contre, quand je suis revenu en 2020, c'est là que j'ai passé mes diplômes de roller parce que moi, je voulais travailler dans le domaine du roller, en fait. Parce qu'en Italie, je travaillais pas dans le domaine du roller, j'ai travaillé dans la logistique. C'était une GLS, ça s'appelait. C'était une chaîne de livraison de colis comme la Poste, en fait. Je travaillais pas du tout dans le domaine du roller et c'est ça qui faisait qu'en fait, je faisais pas de roller. Mais par contre, quand je suis revenu en France, et là, j'ai eu la chance de passer en CQP, voilà, et de commencer à donner des cours au maître roller club. Et c'est là que l'aventure a commencé en tant que prof de roller. Et faire des cours de roller me permettait en même temps de m'entraîner à côté. Donc, ça me maintenait dans la discipline. Et moi, mon objectif, en fait, c'était de récupérer mon titre que j'ai perdu. Donc, de toute façon, je n'avais pas le choix.
Donc là, on est en 2019. Vous sautez 1,62 m avec Florian. Lui, il fait peut-être 1,63 m. Je ne sais plus trop les résultats à ce moment-là.
Ben, on
Vous
a fait
sautez
1,62 m, mais j'ai fait plus de pénalités. Donc,
Oui.
où il a gagné la compétition parce que j'ai fait plus de pénalités.
Et là, aujourd'hui, on est à 1,72 m. On est quand même 10 cm au-dessus.
Ouais, c'est vrai
Donc,
qu'on a sacré chemin. Parce que tu as le
ouais.
record qui était à 1,61 m. C'était un record vieux de 11 ans, je ne sais pas combien d'années. Et c'est Flo qui l'a battu en premier. Par contre, il l'a battu en 2020. Non, plutôt, il l'a battu en 2018. 2018-2019, juste avant d'aller à Barcelone. C'était au championnat de France à Niort.
Ouais, je m'en souviens, ouais. J'étais celui-là.
Voilà. Ouais, il l'avait battu à cette époque-là.
Et là, après, c'est la compétition qu'il y a eu entre vous deux, finalement, qui a permis de faire monter les barres au fur et à mesure. Je voudrais juste revenir vite fait sur 2017 et Nankin, parce que t'as pas été le seul Sénégalais à performer à ce moment-là. Il y avait aussi une femme qui a fait d'excellents résultats et qui a apporté, si je me souviens bien, une autre médaille au Sénégal.
Ah oui, elle s'appelle Awa Baldé. On a parcouru aussi du chemin ensemble. On a fait 2017 ensemble. Elle a fait médaille d'or en même temps que moi. Et 2019, elle a fait médaille d'or. Par contre, moi, j'avais fait médaille d'argent. Et c'est elle qui a toujours le record de son hauteur à 1,32 m. C'est vrai que là, elle pratique un peu moins, mais elle a le record de saut de 1,32 m. C'est Awa Baldé. C'est vraiment une athlète aussi qui a beaucoup de qualité physique. Qui a arrêté un tout petit peu le roller, mais en fait, elle est très très forte.
Par rapport à Wabaldé, justement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait beaucoup de patineurs au Sénégal qui faisaient de la hauteur pure. Est-ce que c'est pareil chez les garçons et chez les filles ou...
Ah oui, c'est pareil chez les garçons aussi. Les filles, il y a plus de garçons par contre, mais chez les filles aussi, les filles sont capables de sauter, ils sont capables de sauter des barres à 1,10 m, 1,15 m. Il n'y a pas que des Awa Baldé là-bas, ça c'est sûr. Il n'y a pas que des filles qui sautent 1,30 m. Il y a aussi des filles qui sautent entre 1,10 m et 1,15 m. Mais là, le problème du Sénégal, c'est que l'engouement qu'on avait en 2017, cet engouement, on l'a un peu perdu. On n'a plus cet engouement-là. Et c'est ça qui fait qu'en fait, le niveau, il baisse. Mais s'il y avait vraiment un accompagnement sérieux de 2017 jusqu'à maintenant, on aurait pu avoir 10 Awa Baldé au Sénégal et 10 Dapal au Sénégal.
Je me souviens que Baba disait dans l'interview qu'on a fait de lui il y a quelques mois, des dames phares, il y en a plein en potentiel au Sénégal.
Ah oui.
Justement, toi, tu dis, il y a une perte d'engouement. De quoi ça vient? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, la perte d'engouement, c'est beaucoup plus les instances fédérales. Parce que, en début d'interview, on parlait de qu'est-ce qui est devenu en fait le roller au Sénégal et l'avenir du roller en Afrique. Je dirais plutôt l'avenir du roller au Sénégal et qu'ils sont en Afrique, parce que c'est partout pareil. L'avenir est bridé un peu par les instances fédérales. Des dirigeants, des fois, qui maîtrisent pas la discipline et qui ont des problèmes entre eux, que ce soit les présidents de club, que ce soit les dirigeants qui sont à la fédé, qui ont du mal à travailler ensemble. Et ça, en fait, ça se répercute sur les athlètes. Donc, sportivement, les athlètes, ils se débrouillent bien, mais sur la partie politique, c'est la partie où c'est les dirigeants qui doivent gérer tout ce qui est infrastructure, le matériel et tout ça, les compétitions, l'organisation. C'est là qu'il y a un problème en fait. Donc c'est pour cela, oui, on a beau travailler, on a beau avoir des jeunes qui se débrouillent très très bien, on a des damfals, beaucoup, on a beaucoup de damfals au Sénégal qui sont, c'est des mini damfals qu'on doit exploiter pour qu'ils puissent être des grands champions à l'avenir. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut. Donc, et ce problème, c'est au Sénégal et partout en Afrique. Parce qu'il n'y a pas que le Sénégal, il y a le Bénin, ils ont du talent. Il y a d'autres pays qui ont du talent aussi. Il y a le sauteur au Bénin, il saute 1,57 m, presque 1,60 m. Mais il n'a même pas la chance de venir participer sur les championnats du monde. C'est catastrophique, ça.
Ouais, il serait potentiellement dans le top 3.
Il serait potentiellement en top 3, mais immédiable. Et c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment un manque de professionnalisme de nos dirigeants et qui fait que la discipline ne se développe pas, que ce soit au CFA, que ce soit ailleurs. Parce que moi, le travail que je fais ici en France, j'ai pris des jeunes. Il y a des jeunes que j'ai pris en 2020. Aujourd'hui, c'est des champions d'Europe. Aujourd'hui, c'est des champions qui ont gagné à Lyon, une compétition internationale. J'ai deux athlètes qui ont fait première place en ski de cross U19 chez les filles et chez les garçons. Et aujourd'hui, ce travail-là, j'aurais pu également en faire profiter au Sénégal et aux pays africains. Mais l'engouement qu'il y a ici en France et le professionnalisme et l'accompagnement qu'il y a ici en France, on l'a pas au Sénégal. C'est ce qui coince, en fait.
Quelles sont les disciplines qui marchent bien au Sénégal? Parce que récemment, enfin, on voit qu'il y a une vraie culture de tout ce qui est freestyle et freeride, notamment la hauteur pure, slalom. On voit que c'est des disciplines qui marchent. Est-ce que il y a le rollball aussi de mémoire? Tu peux nous parler un peu des différentes pratiques?
Alors, au Sénégal, ce qui marche le plus, ils font le plus deux disciplines, le saut en hauteur et le rollball. Alors, le rollball est un peu en avant. Pourquoi? Parce que c'est un sport collectif. Ça se joue, c'est comme le handball, mais en roller. C'est les mêmes règles, en fait. C'est les règles du handball en roller. Donc, c'est 5 personnes sur le terrain, un gardien, 5 personnes, 6 personnes dans chaque équipe. Donc, mine de rien, ça joue un peu sur la cohésion et c'est une partie où on peut inclure vite fait 12 personnes. Donc, forcément, il y a beaucoup plus d'engouement et il y a aussi la hauteur pure. Et la hauteur pure, qu'est-ce qui. La hauteur pure, c'est parce qu'en fait, le Sénégal, on a un peu le monopole de la discipline. Le Sénégal, nous, on aime beaucoup sauter. On a énormément de riders, de sauteurs, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. Donc, aussi, on a un très bon niveau au saut. Donc, on a ces deux disciplines phares, le saut et le rollball. Et maintenant, le ski cross commence à se développer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Il y a eu une compétition de ski cross au Sénégal organisée par Baba. Et ça, c'est bien. Et moi, mon objectif, en fait, c'est de développer les autres disciplines, que ce soit le saut, de le développer davantage pour qu'il y a un accompagnement pour créer des downfalls et des aobaldés. Et le skate cross aussi, qui est une discipline qu'on a, nous, nos chances de pouvoir pratiquer, de pouvoir aller un peu vers le haut niveau, de le développer également. Le rollball, je suis un peu. Moi, j'aime pas trop le rollball. C'est vrai que je l'ai pratiqué. Je suis parti, j'ai fait les championnats du monde de rollball, c'était en 2016. Mais après, j'ai arrêté parce que ça m'attirait pas trop. Voilà. Et maintenant, je ne fais que le saut. Et de ce qui concerne à l'avenir, j'aimerais développer ces deux disciplines-là au Sénégal, quoi. Et on fait de la course aussi également. Mais pareil, toutes ces disciplines-là, on ne peut pas le développer parce qu'à chaque fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est les dirigeants qui brident le niveau. Donc, qui fait que, en fait, les jeunes, ils ne peuvent pas aller plus que ça.
J'ai proposé à Baba de se connecter un peu à l'arrache, mais je suis content de vous avoir tous les deux parce que ça a vachement de sens.
Super.
On avait parlé de toi pendant l'interview de Baba, là, qui va sortir prochainement. Alors,
D'accord.
pour les auditeurs, ça va être un peu en décalé. Il y aura Baba d'abord et ensuite Dame. Ouais, ça me fait super plaisir de vous avoir parce que finalement, il y a des choses communes qu'on retrouve. Vous vous êtes déjà croisés tous les deux, vous vous connaissez?
Oui. Baba, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le précurseur, c'est le père de la discipline au Sénégal. Donc, on ne peut pas faire du roller au Sénégal sans connaître Baba ou sans échanger avec Baba, c'est impossible.
Bon, est-ce que à quel moment, dans quel contexte vous êtes rencontrés tous les deux?
Alors, Baba, je pense, on s'est rencontrés sur les compétitions. Moi, avant, j'étais à Dakar Roller d'abord, puis je suis parti chez Maestro Roller. Et on se rencontrait sur les compétitions parce que Dakar, c'est très petit. Et quand on fait des compétitions, il y a tout le monde, il y a tous les queues. Et je me souviens, là, je pense que la première fois que je l'ai rencontré, c'était les World Slalom Series à la place du Souvenir. Là, il y avait les Pierre Sella et tout ça. Je l'avais rencontré là-bas parce que lui, il organise beaucoup de compétitions. Il met vraiment en valeur la discipline. Et à chaque fois, c'est lui qui organise des compétitions internationales. Il fait venir Pierre Sella, il a fait venir Ken Chalot, Teddy Thierry et d'autres personnes. Donc vraiment, c'est une personne que j'estime beaucoup, qui développe beaucoup la discipline au Sénégal.
Ouais, toute la team roule, alors tu faisais venir Baba sur les compètes?
C'était juste un coucou, en fait. Je voulais te dire bonjour avant de commencer à répondre. Donc, je sais pas si tu me reçois. Yes, et voilà. Mangle big up, Boubardam. Yes, merci, Harry. Ça fait trop plaisir de vous voir tous les deux. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à l'interview de Dame. Parce que déjà, le point commun, notre cher Sénégal, déjà, ça, c'est un gros point commun. Ensuite, le deuxième gros point commun, c'est le roller. Et aussi, un autre point commun, c'est la fraternité. Et nous avons quand même ces trois gros points. Et sans parler, bien sûr, du gros point de Serigne Touba. Hein, on ne peut pas parler de Dame, on ne peut pas parler de Serigne Touba. Donc, il y a quatre points en gros, il y en a plein d'autres, hein. C'est bien ça. Donc, nous avons ces quatre points en commun et il y en a plein d'autres. Et tout ce que je peux dire, c'est que Dame est une fierté pour nous. En tout cas, pour moi, qui suis le précurseur et de ce mouvement au Sénégal, avec du haut de mes 43 ans de pratique, il me fait honneur. Et tout ce que je peux dire, c'est que Chikao Chikadam, ça veut dire toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus fort. Voilà ce que je lui souhaite. Une belle réussite dans toutes ses entreprises, aussi bien niveau famille et niveau sport, et sur le plan sportif aussi. Voilà. En gros, je peux donner ça comme introduction.
Là, il a abordé un point intéressant tout à l'heure, Dame, c'est la structuration du roller en Afrique. Comment vous voyez évoluer cela dans l'avenir tous les deux? Est-ce que Dame, par exemple, tu veux t'impliquer davantage au niveau des instances internationales ou ça va se passer comment?
Alors moi, oui, j'aimerais m'impliquer parce que je pense que autrement, ça va toujours être statu quo. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, Baba n'était pas là, mais il pourra te confirmer. Le problème du roller au Sénégal et en Afrique, c'est un manque de professionnalisme de nos dirigeants qui fait qu'aujourd'hui, on a des talents sportivement, on a des athlètes, on a des jeunes qui sont très très forts et qui ont très envie, qui ont du temps et qui ont très envie de se développer, d'aller loin. Mais cet engouement est bridé par les dirigeants, des personnes souvent qui ne sont pas à leur place et des personnes qui ont très peu de compétences et qui ne s'entendent pas des fois ensemble. Et ça fait que la discipline n'évolue pas parce qu'on a beau créer des athlètes, mais si derrière il n'y a pas d'accompagnement, si derrière les athlètes n'ont pas la chance de faire des compétitions, que ce soit au niveau national ou au niveau international, bah derrière il n'y a pas de but. Du coup, en fait, ils se lassent et ils arrêtent. Et on a beaucoup de Damfal qui ont arrêté le roller et beaucoup de Baba aussi qui ont arrêté le roller parce que le Sénégal, on a des talents au slalom aussi, pas que au saut. Mais le manque d'accompagnement fait que, en fait, les athlètes, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas d'objectif derrière. Donc moi, j'aimerais à l'avenir, c'est vrai que là, j'ai une carrière d'athlète, je suis éducateur sportif, donc j'ai un sacré planning. Mais je pense qu'à dans un horizon de 5 ans, j'aimerais beaucoup m'investir, que ce soit surtout au Sénégal, parce que c'est préférence nationale d'abord. Surtout au Sénégal, j'aimerais bien développer, que ce soit la discipline, permettre les athlètes de faire des compétitions, qu'ils aient, de faire des formations surtout. Parce que tout à l'heure, je te parlais en début d'interview qu'au Sénégal, la plupart de nos entraînements, en fait, de ce que j'ai vécu moi, c'est pas structuré avec des consignes, des conseils techniques, des retours et tout ça, comme ici en France, des ateliers, mise en situation, bilan. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. Nos entraînements, c'est des sessions. Donc, j'aimerais à l'avenir que ça soit déjà bien structuré pour la formation, que ça soit pour les athlètes et aussi pour les dirigeants, pour qu'on puisse travailler en harmonie, pour que tout soit synchronisé. Parce que s'il manque d'un côté et de l'autre, ça va pas marcher. Donc, si ça, c'est un projet dans 5 ans ou plus, quoi. Mais je compte sur les Babas aussi. C'est des personnes qui organisent des compétitions, qui mettent en valeur la discipline, qui permet aussi à bon nombre de Sénégalais de faire du roller parce qu'il a ouvert un shop de roller. Donc, avant, il n'y avait pas ça au Sénégal. Donc,
Oui, j'ai vu ça. Il y a un shop qui est ouvert en mars, d'ailleurs.
voilà, donc il permet aux Sénégalais aujourd'hui d'avoir accès à des sebas, à des patins et faire skate de haut de gamme ou des patins d'entrée de gamme. Donc vraiment, des personnes comme Baba, si on en avait 10 au Sénégal aujourd'hui, on aurait dépassé déjà ce niveau.
Bon, tout à l'heure, on parlait de structuration. et des déplacements sur les compétitions, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même ça, c'est d'avoir une structure nationale qui permette aux athlètes de se déplacer. Comment toi, tu finançais tes déplacements, Dame?
Alors moi, mes déplacements, c'était ma famille. La plupart des compétitions que j'ai faites en France et à l'international, hors les championnats du monde, parce que les championnats du monde, c'était la Fédé, qui prenait en charge, les voyages, même si c'était pas tout le temps pareil. Parce qu'en Argentine et à Shanghai, j'ai perdu beaucoup d'argent, sur les compétitions. Et heureusement qu'il y a Eferskid des fois qui m'accompagne. Mais sur les autres compétitions, avant de signer un partenariat avec Eferskid, avant, je me débrouillais sur les compètes, je dépensais beaucoup d'argent parce que la Fédé ne répondait pas présent et il fallait travailler pour pouvoir se déplacer. Après, il y avait le club de Brest aussi qui me permettait de participer à certaines compétitions. Mais oui, c'est vrai qu'aussi, j'ai dépensé beaucoup d'argent personnellement pour aller participer sur des compétitions.
Bah, ce que je peux dire, déjà, je pense que tout ce que Dame a eu à dire sur la structuration, c'est la base. Je pense que dans toute chose, si c'est pas structuré et c'est pas organisé, on a du mal et on part dans tous les sens. Et comme il l'a dit, pour ne pas se répéter, en fait, des dames, il y en a pas mal au Sénégal et aussi, je pense, que sur le continent africain. Donc, des athlètes qui en veulent. Et le problème, ce sera pareil, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Aujourd'hui, dans mon rôle de président de commission au niveau du Inland Freestyle concernant la Confédération africaine, donc je suis à pieds joints dans ce carrefour concernant les Africains. Donc je vois que les manquements sont un peu similaires partout. Et le gros hic, encore une fois, il y a une partie, c'est les dirigeants qui doivent savoir que quand ils sont là, c'est pour pouvoir aider les jeunes à s'envoler, mais pas plutôt à les manager de telle sorte à ce qui reste derrière eux. Parce que je pense que sans les athlètes, il n'y a pas de fédération. Sans les athlètes, il n'y a pas de discipline. Donc, il faut un gros respect pour ces athlètes quand même, qui défendent les drapeaux et qui défendent les couleurs. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, hein, la première des choses à faire, c'est la structuration, c'est les formation des formateurs. Et donc, il y a un gros travail à faire. Bon, il dit dans peut-être 5 ans, par rapport à lui, à ses projets. Et je suis sur le terrain, moi je l'attends. Dès qu'il arrive, on prendra le train en marche, on continuera. Parce que je ne cesse de continuer à le faire. Même si quelquefois c'est difficile, hein, mais on ne lâche pas l'affaire. Donc pour moi, avant toute chose, c'est structuré, organisé, formé. Voilà, je vais sur les mêmes propos que lui.
Bon, je vous remercie en tout cas pour cet aspect-là. C'est hyper intéressant d'avoir ce regard que nous, effectivement, en Europe, on a un système qui est déjà en place depuis plusieurs décennies. C'est encore naissant pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez quand même délivrer un message positif par rapport à ça? Ça va dans le bon sens, comment vous voyez évoluer les choses?
Ouf, ça, je vais laisser Baba en répondre.
Oui, bon, le problème, hein, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Et maintenant, comme on a parlé de choses positives, il y a des bonnes personnes qui sont en train de s'engager volontairement sur le plan africain. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même une pincée de gens qui sont en train de faire des choses. Et je pense que s'il n'y avait rien, il y aurait un gros travail à faire. Il faudrait défricher le terrain. Mais là, quand même, il y a des gens qui se lancent. Aujourd'hui, moi, je serais peut-être à la troisième organisation des championnats d'Afrique, qui était prévue normalement pour le Kenya. Mais voilà, à la dernière minute, il y a des choses qui se sont passées. Donc, on est en train de voir où est-ce qu'on va l'organiser. Donc, je me dis que pour que ça puisse aller de l'avant, à chaque pas que nous allons sur le plan africain pour organiser des championnats d'Afrique, il y a des formations que nous faisons en amont avec certains partenaires qui sont en France. Parce que la majeure partie de mes partenaires, ben oui, ils sont basés en France. J'ai Roland Martin, qui est quelqu'un qui se donne à fond pour tout ce qui est formation. Et donc, nous, aller sur le terrain, aller au championnat d'Afrique, égale à faire des formations en même temps et en profiter. Même si on est là que pour 5 jours, on en profite pour faire des formations au max, au max, au max. Et sans oublier aussi que nous faisons des formations en ligne. Donc, j'essaie de former des juges pour que ce soit pas tout le temps des juges qui viennent d'Europe. Donc, il y a un travail qui se fait. Et donc, pour parler de la positivité, oui, il y a des gens qui s'engagent dans le bénévolat. Il y a des gens qui s'engagent à faire les choses sans attendre de salaire derrière. Parce que juste, c'est par amour du sport. Et aussi, c'est parce qu'ils veulent que les jeunes s'épanouissent. Et je pense qu'aujourd'hui, si ça va lentement, c'est mieux que ça soit en mode stagnation. Donc, on est en train d'avancer lentement, mais ça va se faire. Ça va se faire et c'est ça le côté positif. Qu'il y ait des gens qui se battent encore pour ça. Yes, I.
Oh, merci pour ce message positif. Dame, toi, comment tu vois ton avenir à la fois dans la discipline et puis on va parler de performance. À quelle hauteur tu penses qu'on peut monter?
Là, on est à 1,72 m. Moi, mon objectif personnellement, avant d'arrêter, parce que j'aurai bientôt 27 ans. Donc, arriver à 30 ans, c'est vrai que, voilà, 27 ans, dort.
T'es tout jeune,
Arriver
oui.
à 30 et tout ça, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Mais moi, mon objectif, avant d'arrêter, c'est de sauter 1,75 m. Donc, je pense que ça reste un objectif qui est faisable avant que je décroche, parce que j'aimerais décrocher un peu plus tôt pour pouvoir me consacrer sur la partie dirigeant, pour pouvoir essayer de structurer, que ce soit au niveau Sénégal, mais en Afrique et aussi en France, parce que j'ai aussi des projets ici en France, et j'aimerais développer cette partie-là, que je pense qu'il me resterait à peu près 4 ans, donc pas beaucoup. Et sur ces 4 ans-là, moi, mon objectif, c'est de sauter 1,75 m. Et je pense que tout à l'heure, on parlait de génération future, mais la génération future que je vois là, je pense qu'ils vont arriver, ils vont sauter jusqu'à 1,80 m.
1m80, ouais, un bel objectif. Il y a Hakim Naïchalal tout à l'heure qui me posait une question technique. Pourquoi vous sautez, toi et Florian, avec des patins avec seulement deux roues sur les trois?
Les deux roues, il y a deux raisons déjà, deux roues, deux raisons. La première raison, c'est le poids. Parce que deux roues, c'est beaucoup plus léger que trois roues. Donc, la deuxième raison qui est plus importante, c'est la stabilité. Quand on saute, quand on a deux roues sur une platine, la platine est moins fuyante. Ça va pas de gauche à droite, ça va tout droit. C'est comme si on était sur des rails. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de stabilité pendant l'impulsion. Alors que quand on a trois roues, on a tendance à avoir des appuis fuyants, que ce soit à gauche ou à droite, ou des appuis bizarres. Parce que le saut, c'est une discipline physique, c'est une discipline où il faut avoir de l'appui au sol pour pouvoir sauter. Parce que ce qui différencie le saut en hauteur, en roller et en athlétisme, c'est l'appui au sol. À l'athlétisme, ils ont de l'appui au sol, ils sont à pied, ils ont beaucoup plus d'appui, donc ils peuvent développer beaucoup plus de force vers le haut par rapport à nous. Nous, on est en roller, nous, on a une vitesse linéaire qu'on doit transformer en force verticale. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, nous, notre ennemi, c'est le manque de stabilité. C'est pour la raison pour laquelle on est sur des deux roues, parce que ça nous permet d'être sur des rails et d'avoir moins les appuis fuyants et d'être beaucoup plus stable à l'impulsion pour sauter vers le haut.
Ouais, d'autant plus qu'en athlétisme, les athlètes sont équipés de pointes et les pointes leur permettent d'avoir vraiment une bonne accroche.
Voilà, c'est la hauteur pure, c'est l'accroche. Parce que si tu glisses ou si tu as les appuis fuyants, tu peux pas sauter vers le haut. Tu vas plus aller vers l'avant, mais pas vers le haut.
Tu vois les méthodes d'entraînement qui évoluent, j'imagine. Ça se professionnalise dans tous les pays à ce niveau-là?
Ah oui, on en a parlé tout à l'heure de l'exemple de Florian Petit-Collin. Donc aujourd'hui, la discipline, ça s'est beaucoup développé. Et il y a maintenant beaucoup plus de professionnalisme parce que là, on a compris que, pour être bon en hauteur pure, il faut pas s'entraîner seulement avec le roller. Il y a presque 60% du travail qui se fait à pied parce qu'il faut avoir des qualités physiques. Il faut avoir de la détente verticale. Il faut avoir aussi des qualités techniques sur le gestuel. Par exemple, les figures de franchissement comme le zoulou, comme le déhanché. Il faut savoir faire une bonne impulsion. Donc ça, c'est beaucoup d'éléments qu'on ne travaille pas que en roller. On travaille à pied. Et un autre aspect aussi qui est l'alimentation. Aujourd'hui, il faut une alimentation saine pour bien contrôler son corps, pour pas prendre trop de poids, pour être bien affûté sur les grosses séances. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la hauteur pure, en fait, c'est derrière devenu une discipline olympique, mais pas olympique parce que nous, on a les mêmes exigences. On s'entraîne. Moi, je m'entraîne 5 fois par semaine à la salle, 3 fois en séance de roller, donc ça fait 8 séances dans la semaine. C'est à peu près 17 heures de sport, donc ça fait beaucoup.
Oui, ça commence à faire beaucoup. On parlait tout à l'heure de Florian Petit-Collin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres sportifs, pas forcément dans le milieu du roller, qui t'ont inspiré?
Alors, des personnes qui m'ont inspiré, à part Florian Petit-Collin, il y a Robert Diouf. Robert, lui, c'est le précurseur du roller dans le sens large, général, au Sénégal. Robert, lui, c'est le précurseur du saut au Sénégal et en Afrique d'ailleurs. Parce que lui, avant, il n'y avait que lui. C'était le baron, c'était. Voilà, quoi. On ne pouvait pas l'atteindre. Et à l'époque, son record, c'était au Sénégal et en Afrique, c'était 1,50 m. Mais il n'y avait personne qui pouvait l'égaler, que ce soit en hauteur pure ou en high jump. Et il avait une technique. J'ai copié beaucoup de lui. Parce que les sauteurs, à l'époque, ils prenaient beaucoup de vitesse et ils sautaient. Donc lui, il arrivait tranquille, pépère. Et les gens disaient, mais il fait pas d'effort, mais il saute. Donc, c'est le fait que j'arrive moins vite quand je saute, je l'ai pris un peu de lui. Parce que lui, à l'époque, il sautait, je m'entraînais dans le même club où il était. Et le fait de me côtoyer, ça m'a permis aussi de monter en niveau parce que je voyais ses méthodes, je me confrontais avec lui, il m'a tiré vers le haut. Moi, je pense que j'avais à peu près 5 ou 6 ans de moins que lui. Donc, ça fait que c'était pour moi un exemple à suivre. Et lui, c'était vraiment une personne aussi qui m'a beaucoup permis à me tirer vers le haut et c'était vraiment un exemple pour moi.
Il y a une question que je me posais par rapport à tes titres. En France, le roller, c'est pas très visible. Tout le monde s'en fout. Il y a le foot, il y a le tennis, ou des sports comme cela, ou le cyclisme encore. Au Sénégal, quand tu arrives avec un titre de champion du monde, quel est l'accueil des instances? Alors, je ne parle pas forcément de la fédération, mais je parle plutôt du public et de l'État.
Alors, au Sénégal, c'est autre chose. En France aussi. En France, ici, c'est vrai que c'est le rythme de la vie, je pense, que ça soit dans les autres sports. En France, il n'y a que le foot qui est retenu. Je pense que les gens, ils vont sortir seulement si la France est championne d'Europe ou championne du monde. Et encore, dans certaines villes, ils s'en foutent un peu. Le Sénégal, c'est un petit pays. Voilà. On a très peu de clubs. On a 26 clubs. Mais par contre, on a énormément de pratiquants. Énormément de passionnés et des personnes qui sont passionnées, qui vont sortir dès qu'il y a une médaille d'or qui est gagnée. L'accueil que j'ai eu au Sénégal en 2017, moi, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout parce que le roller avant, c'est ce que je te disais en début d'interview, moi, le roller, je ne le faisais pas pour faire des compétitions ou pour voyager. Je le faisais parce que j'ai vu que la discipline me plaisait et je ne savais même pas ce qui m'attendait. Nous, on allait en Chine, mais vraiment, on y allait en mode incognito pour faire une compétition comme une autre. Mais c'est après avoir gagné qu'on s'est rendu compte que bah on a gagné des championnats du monde. Et on ne savait pas que le roller avait cette ampleur-là. Parce qu'au Sénégal, c'est le foot qui est en avant et la lutte. Mais l'accueil, on a eu un accueil vraiment chaleureux avec beaucoup de personnes et beaucoup de passionnés de roller. Et aujourd'hui, grâce à nous, grâce aux médailles qu'on a gagnées en Chine, on a mis en lumière le roller. Et aujourd'hui, au Sénégal, le roller est connu. Et le roller, je pense, est beaucoup plus connu au Sénégal que par rapport ici en France. Par exemple, l'exploit des riders français n'est pas connu vraiment à l'échelle nationale. Alors que nous, ce qu'on fait au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui savent que bah, le Sénégal est champion du monde de roller. Donc pour nous déjà, c'est vraiment une satisfaction, un honneur de pouvoir vivre cela.
Ouais, je pose aussi la question à Baba en même temps. Est-ce que le roller au Sénégal, il est vraiment pris pour un sport? Parce qu'en France, tu t'expliques aux gens que tu fais du roller, ils te demandent, ouais, mais tu fais quoi comme sport? Ah ben, je fais du roller. C'est un jeu, le roller, c'est un loisir, c'est un truc pour les gamins, mais c'est pas un sport. Est-ce que là-bas, c'est vraiment reconnu comme un sport ou pas?
Donc déjà pour prendre le train en marche pour aller dans le sens que dans le même sens que Dame, oui, donc il y a une effervescence et grâce à ces titres les gens connaissent un peu plus le roller. Les gens sont moins agressifs par rapport à cette chose parce que avant ils le prenaient aussi comme un élément de genre des perturbateurs ou bien des fils à papa, voilà, ils avaient tout le temps une histoire qui nous collait dessus parce qu'ils savaient pas vraiment c'était quoi. Donc la seule chose que je peux dire par rapport à ce que Dame a eu à dire, c'est qu'il faudrait que les instances, tout ce qui est l'État, vu qu'on a changé de gouvernement, on n'est pas très dans la politique, mais juste c'est une parenthèse. J'espère que le nouveau gouvernement qui est là, ils feront honneur à ces athlètes quand même qui défendent les couleurs du pays à travers le monde. L'effervescence y est, les gens en parlent, dans les familles, donc ça commence à prendre une certaine ampleur quand même. ça existe depuis longtemps, le roller au Sénégal, mais ça commence à prendre une autre dimension avec ces titres et aussi de plus en plus de pratiquants. Donc, il y a plus en plus de familles qui sont concernées par cette discipline. Nous, ce que nous avons fait, en tout cas moi personnellement, en ayant créé l'association, j'avais dit sport, culture et civisme. Donc, la première association de roller avait pour but de développer le roller en tant que sport, développer aussi le côté culturel. Donc, on a collé une méchante image culturelle par rapport au roller qui ressemble à faire tout ce qui est danse, tout ce qui est participer à des festivals et toutes ces choses-là, parce qu'il y a un gros côté création aussi. Donc, ici au Sénégal, le roller est pris comme un instrument et roller est considéré comme du sport au Sénégal et aussi est considéré comme un élément pour artistique. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans ce domaine-là, qui vont dans ce sens-là, qui vont pas être des pratiquants de slalom ou de saut pur, mais qui vont être plutôt des danseurs, qui vont être plutôt des gens qui vont créer des chorés et toutes ces choses-là. Et donc, vraiment, oui, on a ce côté sportif. Les gens nous regardent comme des sportifs. Les gens nous regardent comme aussi des éléments qui, parce que nous faisons beaucoup de communication, de distribution de flyers. Donc, on nous colle beaucoup cette étiquette aussi. Donc, on peut dire que c'est l'utile et l'agréable. On est des sportifs, on est des artistes, mais aussi on est des travailleurs. Donc voici un peu les trois points sur lesquels les gens regardent sur nous par rapport au Sénégal. Mais oui, on nous considère aussi comme des sportifs. On nous met pas sur le côté comme quoi tu fais quoi comme sport, tu dis du roller, mais quoi d'autre? Oui. Mais par contre, il faut retenir une chose aussi, pas mal de jeunes Sénégalais sont multidisciplinaires. Quand je dis multidisciplinaires, pas que dans le domaine du roller. Vous allez voir un roller qui est roller, mais qui est footballeur aussi et qui fait autre chose. Moi qui vous parle, ben, je suis roller, mais je fais de la natation, je fais des arts martiaux. Donc, voilà, le sport est dans notre ADN ici au Sénégal. Ça, on peut le dire vraiment. Yes, ça y est.
Donc, c'est une nation vraiment sportive. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a des débouchés professionnels.
Oui, bien sûr, il y a des débouchés professionnels. Bon, par exemple, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis professeur de roller dans les écoles. Je suis formateur, je suis éducateur aussi. Donc, il y en a pas mal d'autres qui, aujourd'hui, j'ai les formés et qui travaillent avec moi dans les écoles. Il y en a pas mal d'autres qui ont pris exemple de moi, qui aussi, eux, donnent des cours extrascolaires. La distribution de flyers, j'ai été le premier à le faire il y a plus de 22 ans. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui ont les structures, qui font la distribution de flyers. Donc, franchement, oui, il y a ce côté-là qu'on a su développer et exploiter. Et comme je peux le dire, ben, pourvu que ça dure, quoi.
C'est cool d'avoir ces choses positives. Dame, je vais revenir à toi sur une partie qu'on n'a pas encore abordée, c'est le sponsoring. Tout à l'heure, tu as parlé de FR Skate. Tu voudrais dire un mot sur cette collaboration?
Oh, au moins, déjà, je veux dire merci.
Ouais, comment ça s'est fait?
C'est bas. Parce que le sponsoring, aujourd'hui, je pense que la discipline s'est beaucoup évoluée et le matériel aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise des patins qui coûtent entre 900 et 1000 euros. Donc, forcément, c'est un salaire, c'est presque le SMIC ici en France. Donc, c'est des choses que j'aurais pas pu me permettre s'il y avait pas l'accompagnement des First Skate. Et au-delà de l'aspect matériel aussi, là, il y a l'accompagnement sur les compétitions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des compétitions qui sont possibles que je peux faire parce que First Skate m'accompagne pour faire ces compétitions-là. Donc, mon partenariat avec les Skate, ça m'a permis de monter aussi en hauteur. Parce qu'avant, j'utilisais des patins Power Slide. J'étais chez Power Slide. Donc, j'utilisais des patins pas forcément adaptés pour le saut en hauteur. Donc, les Skate, aujourd'hui, ils m'ont permis d'avoir des patins spécialisés pour la discipline. Donc, mine de rien, ça m'a permis de monter, de gratter des records, de pousser encore de plus en plus. Donc, aujourd'hui, je suis là, on va se partir grâce à FR Skate.
Ouais, donc, on en parlait tout à l'heure un petit peu de tes patins. On a dit que c'était un patin à deux roues. Vous avez une spécificité avec Florian, c'est de mémoire, c'est comme pour le skatecross. D'ailleurs, vous roulez avec des patins qui sont plutôt typés course, non?
Oui, oui. En hauteur pure, on roule avec des patins typés course. Et la spécificité des patins des chez FR Skate qu'on utilise nous pour le saut, c'est qu'on a une liberté de cheville avant-arrière pour l'impulsion, pour l'extension, parce qu'on saute, vers le haut, on fait une extension, on le finit sur les pointes. Donc, on a vraiment besoin d'avoir la cheville qui est libre pour bien s'aligner vers le haut avant de faire une figure. Donc, aujourd'hui, ces patins des FR Skate nous permettent d'avoir cette liberté avant-arrière et un bon maintien latéral sur les côtés pour pas avoir la cheville qui part à gauche, à droite, que ce soit pendant l'impulsion et que ce soit pendant la réception. Et il y a aussi l'aspect, le fait que les patins soient très, très légers. Oui, également aussi de gratter des centimètres. Il y a une platine en carbone. Il y a des roues adaptées aussi pour le saut, des roues d'antan qui sont vraiment un peu fines, pas très, très lourdes. Donc, voilà, c'est un bon combo pour perfer, pour faire de la performance.
On va passer un petit peu sur l'avenir. Là, tu le disais, tu as 27 ans, tu te projettes potentiellement dans des rôles au niveau institutionnel. Au niveau professionnel, comment ça va? Tu vois quoi pour toi?
Au niveau professionnel, je pense que je vais continuer dans cette lancée-là, dans cette casquette de prof de roller. Moi, ce qui va changer dans 5 ans ou plus, c'est que je serai plus athlète. Donc, je pourrai vraiment me consacrer sur la casquette de prof de roller, de l'accompagnement que je fais aujourd'hui. Je prends des jeunes, je les accompagne vers le haut niveau. Et j'aimerais aussi m'engager dans les instances fédérales pour développer la discipline. Que ça soit ici en France et au Sénégal, parce que j'ai envie aussi de développer la discipline, parce que la discipline n'est pas vraiment développée en Afrique. Et j'aimerais que l'Afrique aussi ait la chance de pouvoir s'exprimer sur des compétitions internationales, que ça soit sportivement en tant qu'athlète, mais aussi en tant que juge ou autre, parce que aussi j'ai la casquette de juge, je suis juge ici en France. Même si je ne juge pas beaucoup de compétitions, parce que pour la plupart, j'y vais en tant qu'athlète ou en tant que coach, donc j'ai très peu de temps. Mais c'est vraiment des casquettes que j'aimerais développer à l'avenir, que j'aimerais avancer à l'avenir. J'aimerais aussi accompagner les jeunes, que ce soit ici en France et au Sénégal, à performer, à pouvoir se consacrer sur leurs études en même temps en faisant du sport.
Baba et Dame, à terme, vous voyez éventuellement rentrer à la World Skate? Je disais en plus, Dame, il parle italien.
Oui, non, Dame, il a ce côté. Il parle italien, il parle français, il parle anglais, il parle wolof, et sûrement une langue aussi. Si on me dit qu'il parle allemand ou ukrainien, ça ne me surprendrait pas. Mashallah. Ben, moi, j'ai déjà pied dans la World Skate, en fait. Donc, oui, il faudrait juste que je me consacre un peu plus à cela et que je me concentre beaucoup plus. Il faut dire qu'en ce moment, bon, après, c'est les obligations de la vie de tous les jours, mais j'ai déjà un pied dans le World Skate et puis aussi au niveau du World Skate Africa. Donc, voilà, moi, je suis sur la même lancée que lui, quoi. Pour l'avenir, c'est la même chose, quoi. Les formations, faire de telle sorte que les jeunes soient bien encadrés. Et aussi, un point très important que je veux signaler, formation et encadrement, il faut valoriser ces jeunes qui comprennent que quand on a du talent, on n'a pas besoin de s'exiler ou on n'a pas besoin de fuir parce qu'on a ce gros problème de l'exil. Plein de gens qui profitent des compètes pour pouvoir partir dans la nature et après, ben, c'est un athlète qu'on perd ou bien c'est un champion ou quelqu'un qui rupestre. Donc, je pense que dans tout ce qui est formation, la sensibilisation en fera partie énormément. Et Dame qui disait tout à l'heure des projets pour le Sénégal et tout ça. Bon, moi, je suis pas trop de titre, je suis pas trop dans tout ce qui est histoire de président ou autre, mais oui. Quand on a un élément qui a été un super athlète et qui est un athlète comme lui et aussi qui fait, il est agréable, il est dans les formations, il est vu et tout ça, ben un jour, hein, ben moi je le vois bien, je le dis comme ça, hein, je le vois bien être un jour, pourquoi pas président de la fédération ou bien avoir un titre honorifique à ce niveau parce que il faut mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut. C'est ça le sujet.
Dame président.
Moi, à l'avenir, j'arrête ma carrière. Quand j'arrêterai ma carrière de roller, je vais m'engager et je vais faire bouger les lignes.
Chôme.
Ah, c'est cool, ça fait plaisir.
Ouais, il faut des personnes qu'il faut les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et on a forcément une personne qui a été athlète et qui a l'avantage de s'entendre bien avec les dirigeants aujourd'hui s'il s'installe. Il pourra vraiment créer cette cohésion nationale déjà, parce qu'il est nécessaire pour pouvoir mettre des formations, pour pouvoir aider les athlètes. Il faut déjà s'entendre avec les gens. Et il faut avoir aussi ce bagage. Il faut avoir moi, j'ai baigné dans les ligues ici en France, Ligue de Bretagne. Voilà, j'ai eu la chance de passer en CQP. J'ai passé en DGEP, c'est un diplôme d'État. Donc, je pense qu'en Afrique, je suis le plus diplômé dans les disciplines dans le roller. Donc, je pense que c'est légitime aussi pour moi de me lever un jour et dire, bah, je vais diriger cette fédération. Donc, je pense que ça sera un choix très, très légitime.
Ça fait plaisir de voir cette ambition-là. Pardon, Baba, je t'ai coupé, tu peux répéter.
Non, non, je disais que ça me fait plaisir de savoir qu'on va dans le même sens, lui et moi. Une suggestion, tout à l'heure, il a dit quelque chose de très important par rapport au 1m75. Je pense qu'il va y arriver bien plus tôt quand il parle de fin de carrière dans 4 ans. Ben non, avant ces 4 ans, il devra chercher à atteindre plus que ça parce que le 1m75, il les a en lui. Moi, je crois en
Ouais,
lui.
j'ai vu, ouais. J'ai vu à Lyon.
Je lui ai toujours dit, en fait, on a eu à faire le championnat d'Afrique ensemble, où j'ai été son conseiller et son masseur en même temps. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je pense qu'il ne va pas l'oublier. Et je lui avais dit, dame, je sais qu'il y a un niveau qu'on peut atteindre. Et aujourd'hui, il parle des 75. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà dans la poche. Et comme il lui reste 4 ans, donc je pense que c'est 1,80 dont il parle. Je ne sais pas, mais je sais qu'il peut ne pas être loin de ça. Et après, ce qui va être dur, c'est qu'il risque de mettre le record à un niveau qui va encore rester pendant 20 ans sans être battu, quoi, comme ça a été pour les 1m60, quoi. T'es en train de faire quelque chose d'énorme et tu vas mettre, en fait, les générations futures, tu vas vraiment les mettre dans l'embarras. Ça, c'est ce que je peux dire. Les parents de la génération future, ils sont prêts, ils cognent déjà à la porte, hein. Salil, c'est le fils de Baba. Je sais pas si tu te souviens, Alex, à Lyon.
Il a fait 1,53, je pense.
Il sautait 1m53, c'est un jeune, il est très jeune.
Je l'ai filmé, on l'a mis sur les réseaux.
En France, moi j'ai un élève, Maël Rodot, il est encore plus des hommes, il n'est pas senior. Et aujourd'hui, il a le record de France, il a sauté 1m49 et il tentait de sauter 1m51. Donc, à leur âge, moi je ne sautais pas à ce niveau-là. Donc, je pense que à l'avenir, ces jeunes-là, ils pourront établir un record à 1m80, pourquoi pas? Il faut l'accompagnement. Aujourd'hui, moi, ce que je dis à mes élèves, vous avez la chance, vous avez de la chance que je n'ai pas eue. C'est vrai que nous, au Sénégal, on a des figures emblématiques, des personnes qui sautent, tout ça. Mais la chance d'être accompagné par un champion du monde qui a passé des diplômes professionnels, des diplômes d'État, qui connaît ce qu'il fait, c'est vraiment une chance que vous avez. Et vous pourrez aller plus loin, plus haut que nous. Notre génération.
Bon, t'as quand même un petit truc qui est pas mal. J'ai remarqué, c'est que t'es grand. Tu fais quelle taille?
Fais 1m90.
Ouais, 1,90 m, ouais, déjà, ça aide un peu, quoi, malgré tout. Moi, avec mon 1,70 m, je peux pas prétendre à grand-chose.
Ça dépend. La taille peut aider, mais la taille aussi peut jouer en contre, peut jouer, ne peut, peut ne pas jouer aussi en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, une personne de taille moyenne comme Flo, il n'a pas des jambes qui font 2 mètres. Donc lui, quand il doit faire un zoulou, il a moins de charges à soulever que par rapport à des jambes qui font 2 mètres, beaucoup plus longues. Donc souvent, les personnes qui sont beaucoup plus élancées, ils ont beaucoup plus de problèmes de mobilité. Par exemple, si tu vois l'Italien, il est de taille moyenne, il est beaucoup plus, il est très très mobile, il est souple,
Ouais, il est
il est
puissant, ouais.
vraiment propre quand tu le vois sauter parce que c'est pas le même gabarit. Donc la taille aussi peut jouer aussi sur.
Ouais, c'est un double tranchant. Baba, t'as d'autres questions éventuellement à poser à Adam?
Ouais, ben juste dans son cursus là en ce moment, je sais pas si ça lui s'il a cette possibilité. Bon, vu qu'il vient au pays pas tout le temps mais de temps en temps, mais à chaque fois qu'il devra venir au Sénégal, ben voilà, ce que je peux lui demander, c'est d'en profiter, même si c'est pour une semaine, même si c'est pour 15 jours. Mettre un programme, même si c'est de 2 ou 3 jours de formation, que ce soit toujours bénéfique aussi pour dans ce sens-là, parce que la chance qu'ils ont, les Brestois, en ce moment, d'avoir Dame avec eux, d'être formés, de rouler avec lui, ben, c'est vrai que nous n'avons pas cette chance-là aujourd'hui parce qu'il n'est pas sur le territoire, mais à chaque fois qu'il viendra au Sénégal, ben, qu'il mette ça dans un coin de sa tête en disant que bon, moi, c'est quelque chose que je suggère. Il parlait de cohésion tout à l'heure, ben, c'est une des choses les plus faciles pour qu'il y ait une cohésion. Dame champion du monde, triple champion du monde qui est au Sénégal pour 10 jours, il donne une formation sur même 24 heures ou bien sur 48 heures. Je pense qu'il y aura pas mal d'influence et qu'il le fasse aux couleurs super neutres. Pas de club, pas de ceci, pas de cela, juste Dame Fall en tant que champion du monde et en tant que Sénégalais qui a envie de partager sa connaissance et sa connaissance surtout, parce que la passion, les jeunes partagent ça déjà avec lui, mais qu'il partage sa connaissance, même si c'est une formation d'une journée, c'est toujours mieux que rien. Parce que l'accompagnement, c'est une chose, mais les conseils aussi, c'en est une autre. Donc voilà, moi, ce que je peux lui dire, et lui souhaiter bonne continuation sur le plan travail, familial et sur le plan sportif aussi. Voilà.
Merci, merci. Merci, mais carrément, c'est prévu. J'ai pas encore calé des dates pour aller au Sénégal, mais c'est sûr que si j'y retourne, je ferai une formation, que ça soit pour la pédagogie, pour le loisir, mais aussi pour le perfectionnement en ski cross, en hauteur pure, en speed slalom. Donc oui, cette formation-là aura lieu, donc il n'y a pas de souci.
Et juste après ça, bah une fois qu'on aura déjà fait ce projet-là, Dame, bah après on aura l'Afrique à faire ensemble. Quand je dis l'Afrique à faire ensemble, bah, sérieux, on va chercher les moyens.
Compliqué parce qu'il faut les moyens et les dirigeants africains, voilà,
Le nerf
ils mettent pas la main à la poche.
de la guerre, c'est les moyens. Mais là, si moi je te parle de ça en tant que président de commission et que quand même je connais un peu les dirigeants qui sont au niveau de la World Skate Africa, bien sûr, si on veut que Dame vienne faire une tournée africaine, faire des formations, bien sûr, il y a les billets qui doivent être pris en charge, il y a les périodes, il y a l'hébergement, donc c'est un package en fait. Ce n'est pas Dame, on y va les mains dans les poches, on va voir si on peut manger des cacahuètes et boire du jus de coco. Donc ça sera bien sûr un package avec une belle proposition, mais ça peut être un très beau projet, faire une belle tournée africaine pour faire des formations dans les pays qui sont reconnus et qui sont reconnus par rapport à la World Skate Africa et aussi à la World Skate en général, quoi. Mais je me dis que ça aussi, ça peut être un très beau projet, mais avec un bon financement derrière. Voilà.
Carrément.
En tout cas, bravo les gars, c'est hyper motivant de vous entendre, quoi. Ça donne envie. Bon, à moins que tu aies un autre truc à rajouter, Baba, on va passer à la tribune libre. Ce que je te disais tout à l'heure, Dame, on a une tradition dans l'émission, c'est de proposer aux gens d'intervenir sur le sujet qui leur tient à cœur pour conclure. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter, toi?
Alors moi, ce qui me tient à cœur, c'est aujourd'hui de pouvoir voir les jeunes athlètes africains, de pouvoir s'exprimer et montrer leur talent sur les compétitions internationales. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de talent en Afrique, on en a parlé pendant l'émission. Mais moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est aujourd'hui d'arriver sur des championnats du monde et de voir 5 ou presque 7 nations africaines participer. Même s'ils viennent pas pour gagner une médaille d'or, mais au moins ils participent pour montrer ce qu'ils savent faire. Ils viennent pour prendre de l'expérience et revenir plus fort l'année d'après, quoi.
Oui, c'est vrai. On voit de plus en plus de pays africains qui se développent à travers le monde au niveau du roller. Notamment, on en entend beaucoup parler au niveau du rollball, comme on le disait tout à l'heure.
Oui.
J'ai une question que j'avais oubliée, qu'il faut que je vous pose quand même, enfin surtout à toi, Baba, Adam, pardon. Dame, quelle est la personne que tu aimerais qu'on interviewe prochainement sur Balado?
Il faut appeler l'empereur, le Florian Péticola. Je sais pas si tu as déjà fait une interview avec lui.
Non, pas encore, mais c'est prévu, ouais.
Ah oui. De toute façon, une interview avec lui, c'est une leçon, c'est enrichissant. Donc, ouais, pourquoi pas?
On a prévu de la faire avec Walid, qui d'habitude fait les podcasts avec moi. On a prévu de la faire en invitant Hakim Naïchalal, qui lui est la génération années 90-2000. Est-ce que toi, ça t'intéresserait aussi d'y participer et qu'on se fasse ça avec 3-4 gars qui parlent de hauteur pure et de saut?
Carrément, je suis chaud avec plaisir.
Bon, bah ok, bah, le mot est lancé alors pour Florian. On va essayer de se faire ça rapidement, être d'ici la fin du mois qui vient là.
Carrément, je suis chaud.
On aura l'empereur et le roi. Yes, I, magnifique.
Carrément.
Franchement, tu peux me permettre de dire juste un petit mot sur
Vas-y.
Piccola. Un gros respect pour ce rider, parce que pas seulement en hauteur pure, mais c'est un pur rider en fait. Aussi bien dans les en street comme il est dans les en skatepark et tout ça, le skatecross quand même, je pense avoir un titre de 9 fois champion du monde en skatecross, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc ce que je peux dire, c'est big respect à ce petit Colin. Et aussi, petit Colin a été un bon 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 challenger pour notre dame, notre chère dame nationale et internationale. Et voilà, il faut du bon niveau pour qu'on puisse savoir nous aussi jusqu'à quelle hauteur on peut aller, jusqu'à quel niveau on peut aller. Et je pense qu'on n'aurait pas eu petit Colin sur notre parcours, peut-être qu'on serait pas à ce niveau-là. Le fait d'avoir eu l'empereur sur notre parcours, quand je dis notre, ben oui, je me considère en tant que Sénégalais, donc c'est pour nous. Donc un gros respect pour lui et une belle continuation avec la nouvelle casquette qu'il vient de prendre en tant qu'entraîneur, gestion. Il gère des élèves, des jeunes. J'ai vu une formation qu'il a eu à faire il y a 2 3 jours sur Internet. Bref.
Effectivement, oui.
Ouais. Donc moi en tant que Baba Roller du Sénégal, Je le salue avec mes deux mains, quoi. Et un gros big up à lui, un gros big up à tous les riders de cette planète, quoi. Yes, I.
Merci. Ouais, effectivement, petit mot sur Florian, ça nous fera une transition vers lui pour la prochaine. Il est actuellement référent expert pour tout ce qui est skatecross et hauteur pure pour la Fédération française de roller et skateboard. C'est l'équivalent d'un sélectionneur national en somme. Prépare justement les Français aux prochaines échéances internationales, notamment les World Skate Games 2024 en Italie.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Si tu veux dire un mot dessus, enfin, dame, on peut. Hein.
Ah oui, ben, on est à 3 mois. Les championnats du monde en Italie, ça sera un retour aux sources. Parce que j'ai fait 2 ans en Italie. Moi, j'aime beaucoup l'Italie, vécu là-bas. Et mine de rien, c'est une pression en plus parce que mon principal concurrent, Gianmarco, il joue à domicile. Donc, voilà quoi. Et la spécificité, c'est que sur les championnats du monde, je vais aligner deux disciplines, le skip cross et la hauteur pure. Et le petit changement, c'est que le skip cross, c'est juste avant la hauteur pure. Donc, c'est un peu dérangeant, mais voilà quoi. On va essayer de faire une compétition propre et d'espérer de ne pas se blesser parce qu'en skip cross, ça peut aller très très vite. Donc, voilà quoi. C'est une petite pression en plus.
Oui, alors en plus, la particularité du skatecross en Italie, de ce que j'ai bien compris, c'est que par rapport à un format comme Lyon, qui est sur une place plate, ce serait plutôt avec un peu de descente, si j'ai bien compris.
Ouais, c'était pas une grosse grosse descente, mais c'est une petite pente. Le ski cross, ils vont le faire sur une palace en fait, avec un rond-point et tout ça, mais ils ont prévu de mettre des gros modules avec des très grandes tables qui va nous éviter de nous envoler et de réceptionner sur le plat quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça sera une nouvelle expérience à découvrir. Mais comme je dis tout à l'heure, on va essayer de le faire de manière réfléchie, de manière propre, à ce que d'être vraiment en format après pour le saut.
Excuse-moi, là. Surtout que sachant que ton concurrent, lui, il fait pas de skate cross.
Non, et justement, on est arrivé à Lyon. Lyon, je faisais le skate cross, il y avait le skate cross et le saut. Et il y
Ouais.
avait des problèmes de météo, ils ont déplacé le skate cross et on a fait les finales de skate cross le matin et on a fait le saut. Donc,
Il a un vrai avantage,
je me suis
quoi.
dit, mais c'est bien ça, c'est bien que je puisse me mettre en situation de faire une compétition de skate cross et dans la même journée d'enchaîner avec une compétition de saut avec 1 heure de pause. Et lui, il fait pas de skate cross, donc il a un
Ça
là d'être un peu plus frais que moi. Mais moi, ça me met en condition en fait de faire une compétition de skate cross et d'enchaîner avec une compétition de saut. Donc moi, ça me met en condition pour les championnats du monde, même si c'est différent. Au championnat du monde, le skate cross, il y a le skate cross et après il y a 2 jours de repos avant de faire le saut. Donc il y a largement le temps de se remettre en jambes et tout ça. Le seul hic, c'est juste d'éviter de ne pas se blesser. Voilà. Mais sinon, en termes de fatigue et tout ça, il y aura largement le temps en fait pour récupérer et pour se remettre dans le bain pour préparer le saut derrière. Et vu qu'aussi c'est en descente, donc il n'y aura pas énormément de dépenses physiques pour pousser fort sur des starts et tout ça. Voilà.
En tout cas, bonne chance, dame.
Merci
Et avec
beaucoup.
vous.
Ouais, bah oui, bonne chance.
On est avec toi. Pour un
Merci.
quatrième titre de champion du monde, Inch'Allah.
On croise les doigts.
Oui.
Bon, je vous remercie à tous les deux. Et donc, merci d'abord à Dame d'avoir répondu de manière aussi réactive à mon invitation. Et merci à Baba d'être venu aussi à l'improviste compléter ces échanges. Ça me paraissait important dans la mesure où tous les deux, vous venez du Sénégal et vous avez il y a quand même un parcours avec des parties communes. Donc, merci à tous d'écouter Balado. Je vous souhaite à tous les deux donc une bonne continuation. Et on se retrouve donc prochainement pour faire l'interview de Florian Petit-Collin. Merci, à la prochaine fois.
Merci beaucoup. Allez, à très bientôt et bonne journée à vous. On veut que ça aille. Yes, I big up plan.